Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quelles sont les news du cloud ou du DevOps en ce mois de septembre 2022? Alors, on va parler de cartes des data centers GAFAM. On va parler aussi de LastPass qui a a priori une nouvelle fois victime d'une attaque. Et puis, on va aussi se poser la question de est-ce qu'on pourrait arrêter la productivité? Ben, du coup, c'est tout ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ce nouvel épisode d'Actu DevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Alors, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils. Et avec moi, j'ai la team historique de Radio et Actu DevOps. J'ai Erwan. Bonsoir, Erwan.
Bonsoir.
Et Damir. Bonsoir, Damir.
Bonjour ou bonsoir.
Et on va commencer tout de suite avec le courrier des auditrices et auditeurs, et notamment par un message qu'a reçu Erwan dans sa boîte mail.
Oui, donc du coup, j'ai reçu un message il y a pas très longtemps, en fait, d'un ancien collègue qui est tombé un petit peu par hasard sur les podcasts qu'on anime maintenant depuis 2019, si je ne me trompe pas. Et en gros, il est tombé sur celui où on parlait de Terraform, pardon, de Pulumi et de tout ça. Et il ne savait pas que je participais à ça. Il a écouté le truc et puis après, il a reconnu ma voix et tout machin. Et il m'a envoyé un message pour me dire qu'il trouvait que le contenu était plutôt sympa. Il a estimé que c'était une bonne vulgarisation, que les sujets étaient variés. Donc, il nous disait bravo à tous. Et du coup, la conclusion de son mail, c'était de dire qu'il allait rattraper les autres sujets. Donc, c'est très positif.
Eh ben, merci Erwan d'avoir transmis le message. Merci Felipe pour ton super message. N'hésite pas, si tu veux, en plus, à commenter soit sur les applications de podcast, soit sur YouTube, ou alors carrément venir sur le forum des compagnons, puisqu'on a un forum qui est une communauté où on discute entre nous. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que l'objectif du podcast, quand on l'a lancé, et on est un peu tous les trois d'accord là-dessus, c'était vraiment de la vulgarisation et de vulgariser le DevOps et le cloud aux personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui veulent en apprendre plus. Et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire puisque le DevOps n'est pas encore dans toutes les entreprises. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Damir et Erwan, de cette volonté de vulgariser et de ce besoin en fait d'avoir des vulgarisateurs.
C'est un besoin qui est assez, on va dire, assez général et qui touche pas que notre domaine. Et je pense aussi que c'est assez important pour pouvoir avoir d'autres, au-delà de la vulgarisation dans nos métiers. Je pense que c'est important aussi des fois d'arriver à trouver des sources de personnes qui font autrement, qui ont d'autres expériences et qui ont une autre manière d'aborder les problèmes, parce que on a très vite tendance en fait à répéter des patterns et c'est pas forcément bon et c'est quelque chose qui peut nous empêcher d'apprendre plus, découvrir d'autres choses. Et pour ça que je pense que c'est aussi un gros intérêt des vulgarisateurs dans nos métiers, c'est vraiment de montrer une autre manière de faire ou de faire découvrir des choses que d'autres n'auraient peut-être pas découvert aussi facilement. Donc c'est une bonne chose et je suis content aussi. Du coup, des retours comme ça fait toujours plaisir avec quelques années aujourd'hui qu'on fait ça. Et c'est toujours intéressant de voir que les gens découvrent et ils sont plutôt satisfaits.
Ouais, moi, je trouve ça cool. Et puis, je pense que c'est bien qu'il y ait... Enfin, Déjà, ce que je trouve bien, c'est que le message a clairement été compris, du coup, puisque c'est comme ça qu'il a perçu le contenu qui était produit, et donc c'est ce qui était cherché à faire, donc c'est bien. Et en fait, la seule prétention qu'on a à faire ça, c'est juste d'ouvrir les chakras potentiels de certaines personnes, de se poser certaines questions, de découvrir peut-être des technos ou des méthodes ou quoi. Et si on arrive à ne serait-ce que mettre une petite graine via nos retours d'expérience ou quoi sur ce sujet, je trouve que la mission est réussie. Donc c'est cool.
Exactement, je vais finir par une petite discussion que j'avais avec Xavki sur Twitter. Lui, il avait des gens qui se plaignaient du fait que certaines de ses vidéos n'étaient pas assez fouillées. Je sais que nous aussi, on a eu des commentaires comme quoi on n'était pas assez tech, on n'allait pas assez loin. Et donc moi, je le rassurais en lui disant que de toute façon, il faut des vulgarisateurs et on s'adresse au plus grand nombre et aux néophytes. Et que, selon moi, les personnes qui sont plus avancées peut-être pas forcément besoin de nous pour aller plus loin et peuvent aller chercher des personnes encore plus expérimentées que nous. Et en plus, on viserait moins de personnes. Notre objectif, c'est pas spécialement de vous faire atteindre un level ultra haut, mais en effet, comme tu le dis, d'ouvrir les chakras.
Il y a aussi autre chose là-dessus, sur la profondeur, juste que je veux revenir rapidement. Il y a pour moi un gros détail aussi, c'est au niveau du support. Si on voulait vraiment aller dans le profondeur de chaque chose, on pourrait, mais déjà ça demanderait beaucoup plus de temps, ce qui fait qu'il y aurait beaucoup moins d'épisodes et des épisodes qui seraient beaucoup plus durs à appréhender. Et au-delà de ça, à mon sens, alors après il y a sûrement des gens qui ne seront pas d'accord et ça se discute, mais le podcast n'est pas un format idéal, on va dire, pour aller dans des choses ultra précises et ultra techniques. Il y a besoin d'un support un peu plus visuel, on va dire, pour pouvoir montrer des choses, des bouts de code, des schémas, des choses comme ça. En podcast, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué et qui est assez casse-gueule, pour être honnête, de mon point de vue. Donc, c'est vrai que pour moi, si on devait faire des choses de vulgarisation plus tech, ça serait pas dans ce format-là.
Je suis parfaitement d'accord. Et déjà, faire ces podcasts nous prennent énormément de temps. Et c'est vraiment du temps à chaque fois. Tout à l'heure, je regardais le temps que je prenais pour chaque épisode, au total, hein, parce que moi, je prends un peu plus de temps que les autres, mais ça peut atteindre jusqu'à 12 heures, rien que pour un seul épisode, entre la préparation, l'enregistrement, le montage, la promotion, tout ça. Ça commence à faire beaucoup, et donc si on devait y passer plus de temps, bah, faudrait qu'on passe sur le format formation, comme tu le dis. Et là, c'est un autre métier, ce qu'on fait aussi, mais on en parlera dans un autre podcast, justement. Eh ben, Felipe, bon rattrapage, surtout qu'en plus, a priori, t'as pas mal d'épisodes à rattraper. Alors, on va commencer les news, et c'est moi qui m'y colle, puisque je vais vous parler d'un article d'Atlassian. Atlassian pense qu'il est temps d'arrêter de mesurer la productivité. Si nous imposons des résultats quantitatifs à court terme, au lieu de fixer des objectifs stratégiques impactant la durée, nous réduisons considérablement les possibilités créatives. Il est donc essentiel de formuler les objectifs en termes d'outcomes plutôt que d'outputs. Ça, c'est le chapeau avec lequel commence l'article. Il fait ensuite l'état des lieux de notre époque et de son esprit très productiviste et constate que notre monde a quand même un peu changé depuis Ford. Notre économie est basée aujourd'hui sur les services et la numérisation. L'article prend ensuite la thèse que le culte de la productivité est contre-productif. Il prend, par exemple, une équipe de développement e-commerce qui est récompensée pour la rapidité de livraison et du nombre de modifications qui est apportée dans le logiciel. Elle risque alors de livrer des tas de fonctionnalités mineures qui n'améliorent pas forcément l'expérience d'achat de l'utilisateur final. Alors qu'elle aurait pu investir dans un travail créatif de fond, alors certes plus long et risqué, mais aussi beaucoup plus satisfaisant pour le client. Moi, cela me fait directement penser au premier précepte du manifeste de l'artisanat logiciel qui dit, bah, je cite en fait, « pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus ». Je vous mets le lien en description. Mais revenons à l'article. On y apprend que les anglophones font justement une différence entre « outputs », qui sont des résultats immédiats et quantifiables, et outcomes, des résultats à plus grande échelle que l'on peut observer dans la durée sur la base d'objectifs prédéfinis. L'article nous donne un exemple. au lieu de demander à un responsable marketing la publication de 5 articles de blog par mois, il faudrait plutôt lui demander de contribuer à l'augmentation du trafic web, quel que soit le nombre d'articles publiés, et évaluer son travail sur la base du résultat en fonction de cet objectif. L'un des avantages de l'adoption de cette approche réside dans la capacité à stimuler la créativité et l'innovation. On retrouve là un concept qui m'est assez cher, qui est le retour sur investissement, le fameux ROI, dont je parle régulièrement. C'est mon petit côté entrepreneur DevOps qui dit ça. Il est donc essentiel de formuler des objectifs en termes d'outcomes, les outputs n'étant alors que des moyens d'atteindre ces fameux objectifs. Atlassian pense que cette méthode de management est beaucoup plus adaptée au nouveau mode de travail flexible et décentralisé qu'on a aujourd'hui. Alors, comme c'est long évidemment d'attendre la mesure des outcomes, l'article propose des pistes que je vous encourage à aller lire, mais voici les grands thèmes. Définir un planning d'étapes intermédiaires, mettre en place des boucles de rétroaction, viser l'amélioration continue et veiller au bien-être des collaborateurs et collaboratrices. Alors cet article, il fait écho en moi qui prône évidemment le mouvement DevOps et pas seulement le pilier automation comme on voit régulièrement. Et pour moi, c'est ce genre d'article qui va nous aider à faire changer les mentalités, parce que même si, on le disait juste avant, il n'est pas technique, il est là pour poser des bases de réflexion. Et justement, c'est pour ça que je l'ai choisi et je voulais qu'on en parle tous les trois. Vous deux, qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, je me lance, je me sacrifie. Pour le coup, je suis d'accord dans l'idée. Après, pour moi, la productivité, c'est un terme très flou en fait. Et de ce que je comprends, il ne parle pas vraiment de plus mesurer la productivité, mais la mesurer autrement. Parce que quand je reprends l'exemple du coup des articles, on est passé d'un objectif un objectif de productivité qui est de juste produire plus d'articles et l'autre qui est on l'a juste déplacé globalement qui est de produire plus d'attraits ou de conversions, ce qui reste quand même un objectif en soi qu'on pourrait qualifier de productivisme. Après, pour ce qui est de la vue à long terme, ça c'est effectivement un gros souci qui est excusez-moi. Excusez-moi, c'est un gros souci qui est lié à pas mal, qui a une déformation assez vieille, de vouloir produire plus vite et moins cher, quitte à sacrifier de la qualité ou d'autres. Pour vendre plus, c'est une phase assez classique. Après, on le sait tous que c'est pas magique, hein, si on sacrifie les coûts à la création, on va les payer un peu plus tard avec du coup les coûts d'entretien, etc. D'ailleurs, certaines entreprises se sont fait, on va dire, leur spécialité de gérer la TMA de certains applicatifs et autres pour du coup dire on s'occupe de tout, etc. Mais du coup, l'on fait payer à prix d'or vu que les applicatifs eux-mêmes n'avaient pas été conçus pour tenir très longtemps. Et c'est quelque chose qui se mesure aussi, si je prends un exemple, toi, dans tout ce qui est électroménager, automobile, etc. Si on produit pas cher avec des pièces un peu de moins bonne facture, de moins bonne qualité, si on met moins d'exigences sur l'usinage des pièces, forcément, on va tomber sur des choses qui vont être plus dures à maintenir et vont tenir moins longtemps, voire plus de problèmes. C'est malheureusement assez classique, mais dans l'idée, je suis d'accord. Après, pas mal de choses me font aussi penser un peu à d'autres méthodologies, notamment sur l'amélioration continue, sur veille au blind des collaborateurs, sur les plannings intermédiaires, ça, c'est des choses qu'on trouve assez souvent, qu'on entend même dans du Spring, dans du Lean. C'est assez classique et globalement, ça marche. Je pense juste qu'il faut pas trop tomber dans le cliché, il faut quand même arriver à garder un pied dans ce qu'a besoin le client. Parce que tout ça, pour moi, en tout cas de mon point de vue, c'est une question d'équilibre. Je vois un peu l'informatique comme une courbe, je me trompe tout le temps sur le nom, donc je vais pas dire le nom de la courbe, mais une courbe qui tend à se rapprocher en fait d'un niveau, mais sans jamais le toucher en fait. Et plus on va dépenser de temps, plus on aura un logiciel qualitatif, mais aussi plus on va passer de temps et c'est exponentiel. Donc pour moi, il y a un équilibre à trouver là-dessus, sinon on pourra passer un temps infini à développer un logiciel optimisé en permanence. Voilà, ça c'était pour un peu moi ce que je comprends et ce que je retiens de cet article.
Faudrait que je le lise du coup, mais il y a moi ce qui me gêne toujours un petit peu dans ce genre d'article, c'est que en tout cas sur ce qui est l'opposition outcomes et output, c'est que finalement c'est que de la sémantique quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que au final tu cherches quand même à produire des choses, tu fais toujours d'une façon ou d'une autre une grille d'évaluation pour savoir si tu es dans les clous ou en dessous ou en sur régime, etc. Ce que je pense toi Christophe tu voulais mettre en avant avec l'article, c'était justement ce côté ok, produire c'est bien, mais produire mieux, c'est probablement là-dessus que l'enjeu est, et qu'en fait que les grosses entreprises justement comme Atlassian cherchent à mettre plus en avant, ne plus faire 12 000 features mais en faire peu et bien foutu. Et donc du coup bah ça en tout cas moi personnellement, et puis je pense que toute personne qui gère une prod, on est plutôt d'accord avec ce genre de choses. Faire moins de choses mais les faire bien pour pas que ça soit des sujets. Et par contre c'est ce que Damien a un peu cité avant, mais les thèmes qui sont évoqués pour aller vers ce genre de transformation, bah, c'est un peu ce qu'on retrouve effectivement. Alors moi ça m'a fait tout de suite penser plus aux différentes méthodes agiles et même à des choses qu'on retrouve dans les méthodes de DevOps, mais c'est ça, c'est itérer, prendre des décisions à partir justement des outputs de la première itération et avancer là-dessus. Le truc qui est quand même important et je vois que dans tes notes tu l'as mis en gras, donc on va le rappeler, c'est le côté veiller au bien-être des collaborateurs. On va pas se mentir, ça n'a pas toujours été un sujet important pour les entreprises, et du coup si ça fait partie des points qui sont mis aussi en avant dans ce que Atlassian estime comme être quelque chose qui encourage à aller vers quelque chose de mieux, bah c'est, enfin, on peut que saluer, donc c'est plutôt cool quoi.
En effet, c'est moi qui l'ai mis en gras dans l'article. Ils sont tous en gras au même niveau, mais moi je l'ai mis en gras parce que c'est quelque chose que je mets en avant régulièrement. Et c'est pour ça que je pense que le mouvement DevOps peut aider les entreprises, justement grâce au bien-être des collaborateurs. Et tu as totalement compris que mon objectif c'était produire mieux plutôt que produire plus. Et l'article il dit pas plus de choses que ça, il dit juste il faut arrêter de mesurer la productivité comme étant un objectif en soi, mais par contre on peut se servir en effet de la productivité pour atteindre des vrais objectifs qui sont produire mieux, produire des logiciels plus robustes. Alors en l'occurrence il parlait pas que des logiciels, moi j'ai pris un des exemples qui parlait de logiciels, mais il s'adresse à mon avis à plus que les entreprises du logiciel. Je sais pas quels sont les clients d'Atlassian, j'imagine qu'on est beaucoup à être dans la tech, mais je pense qu'il n'y a pas que des gens de la tech, mais bon. Et pour moi, c'est juste rappeler les évidences, c'est aussi bien parce que nous, on est au courant, mais tout le monde ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'aime bien rappeler ce genre de choses et que je pense qu'on n'aura jamais assez d'articles de ce type-là qui justement rappellent des choses qui viennent d'ailleurs. Plus ce sera répété, je pense que vous serez d'accord avec moi, mieux ce sera compris mis en place.
Oui, je suis plutôt d'accord. Mais juste pour info, j'ai regardé rapidement, ils ont des clients dans tous les domaines, y compris l'industrie automobile et autres, donc ça rejoint un peu ce que je disais. Je rajoute juste un petit détail pour rappeler à nos auditeurs, parce que c'est une erreur que je vois souvent, quand vous mettez en place des méthodos, des choses comme ça, pour faire des mesures, que ce soit de la productivité, de la qualité, etc., faites très attention à une chose que je vois trop souvent, c'est que si vous mettez certains objectifs, faut qu'il soit bien conçu pour éviter que les personnes, en fait, travaillent, par exemple, si vous voulez mesurer la qualité, vous mesurez, je sais pas, le nombre de tests qui ont été effectués. C'est un indicateur qui peut être piégeux parce qu'en fait, les gens, consciemment ou inconsciemment, vont pouvoir juste augmenter le nombre de tests un peu bidon ou vous faire plus de tests un peu dans le vide pour augmenter cet objectif sans augmenter réellement la qualité. Faire très attention à cet effet un peu déformant que j'ai déjà vu 2-3 fois sur des indicateurs. C'est quelque chose à surveiller.
C'est justement l'une des choses que disait l'article très bien que tu viens de rappeler. Eh bien, justement, Damir, on va pouvoir passer à ta news qui va faire écho à l'un des outils qu'on a présenté dans le dernier Actu DevOps.
Oui, alors c'est pas une news très grosse, mais c'est le genre de petites news que j'aime bien, parce que ça fait toujours un peu réagir la commute à KFR, et ça me fait toujours un peu rire sur Twitter de voir certaines réactions, mais ça c'est encore une autre histoire, je pense que j'ai pas été le seul à rigoler. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu un petit article du journal du net qui a révélé des positions de data center de grands GAFAM, donc AWS, GCP et Azure, en France notamment, je crois que c'est que la région parisienne et du coup la région marseillaise, et ils ont donné les adresses et notamment les colocations qui étaient faites, parce qu'il faut savoir que comme beaucoup d'entreprises, y compris des grandes, beaucoup de data centers sont en colocation, donc c'est-à-dire que comme pour un appartement en colocation, vous êtes plusieurs à partager des ressources communes, ce qui est le cas, il me semble, pour AWS et GCP. Et ça a été dévoilé du coup publiquement, alors que normalement ces positions sont censées être secrètes, ce qui est un secret de polichinelle en vrai, on va pas se mentir. Pour tous ceux qui mettent un peu les pieds régulièrement dans les data centers, on sait à peu près tous où ils sont. On les a tous déjà un peu vus de près ou de loin, ou vus dans les data centers où ça se situait. Et deuxième chose, c'est quand même le deuxième leak, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il y a déjà eu des précédents de ce côté-là, notamment des leaks en 2018, il me semble, ou 2017, sur Wikileaks, de position de data center. Il me semble que ça concernait pas la France, mais notamment il y avait data center d'AWS Irlande qui a été dévoilé. Et il y a eu pas mal de réactions là-dessus, notamment sur Twitter, de la part de personnes qui étaient un peu choquées de voir des colocations, de voir qu'au final les data centers, que ce soit d'AWS, d'Azure ou autres, n'étaient pas formidables. Alors je sais pas si les gens s'attendaient à des data centers plaqués or avec plein de petits gadgets partout autour, mais non, c'est des data centers tout ce qu'il y a de plus classique, certains même en colocation, ce qui a choqué plusieurs personnes. Et c'est là en fait, à mon sens, le truc le plus révélateur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se concentraient tellement en fait sur l'idée que la tech c'est avant tout des data centers, le cloud c'est avant tout des data centers, des machines, qu'ils oublient qu'en fait la valeur aujourd'hui du cloud elle est plus dans les data centers, qu'on soit en colocation, qu'on soit même dans un data center ultra premium tier one avec tous nos trucs bien faits, c'est plus ça qui crée réellement la valeur aujourd'hui. La plupart du temps, les data centers, oui, il y a une partie, mais la plupart du temps, les grands hébergeurs cloud, ils se disputent pas sur la disponibilité, ils ont tous à peu près la même à pi près. Je parle des Américains, je parle pas des Français. Ils ont tous à peu près la même disponibilité. Le vrai combat, le vrai challenge, c'est vraiment cette partie logicielle. Et là, je pense que ça nous rappelle plutôt bien. Je sais pas si vous avez vu la news, et je sais pas ce que vous en pensez du coup. Par exemple, Erwan, t'en penses quoi?
Effectivement, j'ai bougé un peu la tête sur un à-propos, parce que mine de rien, il faut quand même pas négliger le taf qui est fait en data center. C'est pas la même chose d'être hébergé dans un data center premium, genre ADC5 de Scaleway, que d'être hébergé dans une cave dans le 20e, tu vois. C'est, moi j'exagère bien sûr, mais il y a quand même, et surtout avec tous les enjeux écologiques qu'il y a aujourd'hui, tu vois, je pense que ça, le métier autour du data center, justement la gestion de l'énergie, etc., elle est, et des ressources, est quand même plus pointue et tout. Mais je suis d'accord avec toi que pour tous les gros, eux, ils veulent des ressources et plugger après leur soft dessus et mettre à disposition ces services pour les gens et point, quoi. Mais je veux pas qu'on sous-estime, enfin, je sais que c'était pas le propos, mais qu'on garde bien à l'esprit que c'est quand même du taf et voilà. Non, moi, je suis d'accord. Là où je voulais rebondir, c'est sur le truc que tu mettais en avant, sur le fait qu'il y ait des gens qui découvrent que justement, ces gros cloud providers, ils n'ont pas forcément leur propre data center, mais faut quand même s'imaginer que quand ils ont débarqué en France, ils sont quand même arrivés très très vite, Bah, forcément, ce temps-là, ils n'ont pas construit un data center, acheminé tout ce qu'il faut, tiré les câbles, etc. Enfin, ça met du temps de construire un data center. Donc, ces gens-là, s'ils sont arrivés aussi vite sur le marché français, c'est aussi qu'ils ont pu profiter du savoir-faire des différents data centers français pour pouvoir héberger leurs solutions. Et justement, s'ils sont hébergés aussi en France, c'est que la qualité des data centers est plutôt bonne du coup. Ils pouvaient aller ailleurs, hein. Il y a d'autres data centers partout. Donc voilà, mais oui, je pense voir à quel type de tweet tu fais référence, Damien. Et j'ai moi-même aussi été très surpris des réactions un petit peu étonné de là-dessus. Christophe, tu as un avis ?
Bien sûr, j'ai un avis. Vous pensez bien que j'ai un avis là-dessus. Pour moi, je suis d'accord avec vous deux, c'est-à-dire que, comme Damir le dit, la plus-value aujourd'hui, elle est dans le soft. C'est clair, c'est une évidence, et c'est pour ça que les GAFAM, ils sont aussi puissants, parce qu'ils ont une puissance pour créer du logiciel qui est énorme. Néanmoins, là où justement je rejoins Erwan, c'est que le data center, c'est aussi aujourd'hui un enjeu écologique, et il y en a un qui l'a très bien compris et qui le met en avant et qui démontre par la capacité dont il fait ses data centers sans utiliser de climatisation, par exemple, qu'il y a un enjeu là-dessus. Et je pense que les deux peuvent se rejoindre. Je voulais dire autre chose et j'ai complètement oublié. Je sais que ça avait un rapport avec le soft et le data center, mais je ne sais plus.
Bah, juste pour meubler en attendant, autant que tu retrouves. Je dénigre pas du tout le métier du data center, hein, qu'on soit clair là-dessus. C'est un gros taf. Il y a des fournisseurs français qui font un gros taf très bien là-dessus, notamment Scaleway. Et d'ailleurs, je vais visiter le data center au Journée du Patrimoine, justement, par curiosité. Et du coup, là-dessus, on est tous d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est par rapport vraiment je parle vraiment du prisme. Quand une entreprise, demain, elle fait un comparatif entre deux fournisseurs, elle regarde très rarement l'impact écologique. Alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Pas d'histoire de gestion de valeur. Je dis juste que c'est un fait aujourd'hui, en fait. On va vérifier que ça correspond à des cases. Et au final, avoir un data center qui soit redondé, qui soit fiable, c'est quelque chose que la plupart des fournisseurs font. Donc, aujourd'hui, ça, c'est vraiment une brique de base. C'est quelque chose qui est attendu. C'est pas un élément différenciant.
Eh bien, ça dépend. Figure-toi que nous, pour notre service en ligne, on regarde justement l'impact écologique de nos data centers parce que ça va faire partie de notre discours commercial, le fait que notre offre, elle va être écologiquement soutenable, par exemple. Tu vois, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est pas le seul critère, hein, mais c'est un des critères qu'on regarde.
Mais tu es d'accord pour dire que tu es quand même globalement une exception, surtout dans la mesure où la plupart des GAFAM, notamment GCP et autres, peuvent te fournir des, on va dire, plaquettes ou des supports commerciaux pour montrer leur engagement côté Green IT, entre guillemets, avec pas mal de chiffres et des choses comme ça. Alors, je dis pas que c'est vrai, c'est faux, etc. Mais en tout cas, ils le fournissent. Et à la plupart des entreprises qui veulent un peu se dire on fait un geste écologique, ça leur suffit, en fait. Ils vont pas creuser plus loin.
Je suis d'accord, mais je pense que ça va grandir dans les années à venir. C'est aujourd'hui, en effet, tu as raison. C'est pas la majorité des gens, mais je pense que petit à petit on va y aller. Je voulais revenir sur un point, c'est la présence des data centers en France. C'est ça que j'ai oublié. Pourquoi on a autant de data centers en France ? Ça tient à la géographie, je pense, du territoire européen. Parce que quand vous regardez en fait l'Europe, vous verrez que la France, et c'est aussi pour ça que par le passé la France était aussi puissante, les routes commerciales, pour la plupart, traversent en fait l'Europe au travers de la France, notamment à cause des montagnes et ce genre de choses, ce qui fait que si tu veux aller du nord au sud ou de l'est à l'ouest, à un moment donné, tu vas passer par la France et ça nous donne une position importante vis-à-vis des data centers et des câbles, j'imagine. Moi, je l'expliquerai comme ça parce que historiquement, les routes commerciales, il y en a beaucoup qui passaient en France. Ça me semble pas déconnant qu'il y ait beaucoup de câbles qui passent encore par la France. Je sens que vous avez séché, donc...
En fait, j'étais en train de réfléchir. Il me semble que oui, il y a les câbles américains. Il y en a certains qui arrivent en France. Il y a aussi pas mal de câbles qui partent, notamment vers assez centraux en fait, le Royaume-Uni, l'Irlande, etc. Irlande qui avait déjà pas mal de data centers historiquement côté on va dire fournisseur américain. Et ensuite on est relativement on va dire centré sur l'Europe, en tout cas l'Europe on va dire ancienne, ce qui est quand même plus pratique pour des questions de latence. Et historiquement aussi, on a eu de l'électricité. Alors c'est plus vrai aujourd'hui, hein, mais jusqu'à quelques années, on avait été quand même un pays qui avait de l'électricité pas très chère et pilotable, ce qui était quand même une grosse plus-value pour les data centers, sans compter aussi les cours d'eau qui des fois étaient utiles pour faire les refroidissements et autres. Donc je pense qu'il y a tous ces critères-là, l'un après l'autre, qui ont fait que la France un territoire assez fertile, on va dire, pour faire pousser des data centers.
Je pense en effet que tu as tout dit. Je vois que tu as une autre news, alors je vais te laisser la parole. Du coup, tu vas nous parler d'un petit bonus.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Si je me trompe pas.
Oui, alors c'était pas forcément une news, c'était un site de formation slash un outil, donc on peut en parler. Je peux en parler rapidement. Du coup, actuellement, je suis en train de voir pour me mettre un peu à Golang et quitter le vénérable Python qui commence à un peu être limité dans certains de mes use cases, dans le sens où Go a une approche assez sympa, notamment pour faire des clis et des choses comme ça assez rapidement, et surtout des livrables en un binaire. Et j'ai découvert un site qui est Go en une soirée, en globalement le nom du site, en anglais, je ne dis pas en anglais parce que j'ai un accent de merde. Et j'ai pas encore tout à fait avancé dans la formation, mais j'aime bien leur postulat, où ils sont vraiment dans l'idée de pas juste vous faire faire des lectures de PDF ou des vidéos, mais c'est vraiment interactif et vous avez un client installé localement et vous allez interagir avec eux. Et ce que j'ai rien qu'apprécier, c'est l'onboarding où ils commencent par vous dire tu choisis ton éditeur et on va te dire qu'est-ce qu'il faut installer dessus comme plugin, etc. au minimum. Et voilà, toute cette approche, je la trouve très sympa. Alors j'ai pas encore comme je dis, j'ai pas encore fait totalement la formation, mais en tout cas je t'ai un coup d'œil, ça peut être vraiment intéressant et la pédagogie a l'air plutôt adapté en tout cas à ma manière de faire.
Ça me donne envie d'essayer Go. Je ne sais pas si je vais m'y mettre, mais en tout cas, ce genre d'outil serait vraiment sympa pour apprendre une grande majorité de langage en fait. Erwan, toi, tu as déjà touché.
Juste, oui. J'ai oublié de préciser quelque chose. Ça m'intéresse aussi dans le sens où beaucoup de tutos et de vidéos que je regardais reprennent tout de zéro, y compris expliquer les notions de fonctions, etc. Là, l'idée, c'est vous connaissez déjà un peu la programmation, la théorie, etc. Vous voulez juste vous mettre globalement à Go et de vous expliquer, on va dire, les bases en utilisant des labs et des choses comme ça, beaucoup d'interactivité.
En effet, c'est vrai que quand on vient d'un langage où on connaît l'algorithme, c'est pas la peine de revoir les bases. Donc ça, c'est intéressant, ouais. Erwan ?
Ouais, ça a l'air plutôt cool. Je parcours le lien que Damir a fait suivre et ça a l'air pas mal parce que si en moins de 6 heures, tu as quelques petites bases pour après te lancer et créer justement tes propres clés ou quoi et pouvoir être confiant pour savoir quoi livrer et tout, c'est prometteur. Et effectivement, et puis en plus, ça a l'air plutôt bien fait, là, le truc que je parcours. Donc, belle trouvaille.
Eh ben, merci en tout cas, Damir, pour cette trouvaille. Si le podcast te plaît, eh ben écoute, comme c'est un podcast, c'est dur de le faire, connaître. Donc moi, je t'encourage à le partager. Tu l'envoies par mail, tu l'envoies sur les réseaux sociaux, etc. Tu peux même, si tu veux, parce qu'on le diffuse en licence libre, en CC BY SA, tu peux même prendre des bouts et tout pour faire tes propres contenus. Par contre, il faut nous citer et puis nous envoyer un petit message, ça nous fera plaisir. Justement, c'était mon petit message pour faire répandre le podcast un peu de partout. Et là, je vais laisser la parole à Erwan qui va nous parler de l'espace.
Oui, j'aurais pu parler donc du morceau de Janet Jackson qui est devenu une CVE, mais on va parler de la dernière attaque dont a été victime l'espace. Donc, on a appris le 25 août dernier par le biais de son PDG, donc Karim Touba, via leur plateforme de blog, enfin leur blog, le blog de l'espace, qu'ils avaient été victimes, on ne sait pas trop quand, mais courant août, d'une cyberattaque. Alors, avant de rentrer dans les détails on va déjà rappeler ce qu'est l'espace. Donc, l'espace, c'est un SaaS qui offre un gestionnaire de password avec des intégrations pour votre téléphone, votre browser, le partage de secrets entre utilisateurs, etc. Et l'espace fait partie des solutions quand même très populaires. En 2020, ils revendiquaient plus de 25 millions d'utilisateurs, plus de 7000 entreprises avec qui ils travaillaient, de la PME au grand groupe. Et donc c'est une solution quand même plutôt bien installée. On en profite pour rappeler de l'importance d'utiliser ce genre de solution, alors l'espace ou autre. Mais d'utiliser un password manager pour ceux qui ne voient pas trop l'intérêt. En gros, vous retenez uniquement un password maître et après, vous laissez le password manager gérer la création et le stockage de vos passwords pour les différents services et autres que vous utilisez. Donc, c'est quand même pas mal pour éviter d'avoir les mêmes passwords partout, etc. Alors, si on revient à cette histoire d'attaque, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, on ne sait pas grand-chose, mais il y a quand même deux, trois éléments qui sont intéressants. Déjà, très vite, et je pense que c'est pour ça que le blog post a été publié par le PDG de cette façon, c'est que aucune donnée, l'espace a voulu être très rassurant très vite en disant qu'aucune donnée utilisateur n'a été récupérée, n'a été exploitée, ou n'a été altéré. On apprend, même si c'est assez succinct, qu'en gros, ils ont détecté une activité suspecte sur un des environnements de développement. Et alors, on ne sait pas trop comment ils ont détecté ça, mais on a compris ça. Et en fait, en remontant à la source, ils ont compris qu'il y avait eu la compromission d'un des comptes des développeurs. Et donc, par escalade, la personne a pu avoir accès, enfin, les attaquants ont pu avoir accès à l'environnement de dev et donc commencer à essayer de voir des choses. Dans ce genre de cas, vu le côté critique du business et tout, l'espace fait son enquête, mais elle est aussi aidée d'une société tiers, qui a été mandatée pour valider en fait ce que l'espace comprend et puis auditer, enquêter de façon plus profonde et aussi du coup avoir un regard annexe à tout ça. Et en gros, ce qui a été communiqué, c'est que les attaquants, ils ont finalement pas récupéré grand chose. Ils auraient juste récupéré du code qui serait open source, puisque bon, l'espace, il y a une partie des choses qui sont open source, comme les clients, etc. L'enquête a aussi révélé que certaines informations ont été délibérément, ont été dump et c'est de façon délibérée et c'est des informations de type les versions de software, qu'est-ce qui tourne, etc. Suite à ça, on sait pas grand chose de plus. C'est ça qui est toujours marrant avec ce genre d'incident. Hein. C'est, on sait qu'il y a un problème. Bon, ouais, on sait qu'il n'y a pas eu grand chose, mais on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais l'ASPAS communique quand même en assurant de façon très, très volontaire que la sécurité est de façon générale, donc pas liée qu'à ça, sera renforcée. Et ça en top priorité par rapport, enfin dans leur roadmap. Mais on n'a pas beaucoup plus de détails. Alors il faut savoir que ce genre de plateforme, donc dès que le business c'est de gérer des secrets ou quoi, c'est forcément très très souvent la cible de cyberattaques. Là au moins on peut au moins saluer la transparence de l'ASPAS pour communiquer sur le sujet. Alors comme je ne veux pas faire que de la pub pour eux, si vous êtes chez l'ASPAS et que vous flippez de ce type d'incident, ce n'est pas la première fois, hein, il y a déjà eu plusieurs fois des soucis avec l'ASPAS. Il y a plein de solutions possibles, le Bitwarden, Dashlane, OnePassword qui passe, et puis j'en oublie probablement plein. Ça doit être les principaux. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette histoire, elle relance encore une nouvelle fois le débat de « Ah, la gestion des secrets, c'est quand même galère », parce que une fois qu'on a ce genre de solution, on a tendance à tout mettre dedans, et du coup, si ça se fait éclater, quid de ce qui se passe, le fameux pattern de tous les œufs dans le même panier. Et l'autre truc que je trouvais intéressant dans la news, c'est que l'exploit est sur un compte de développeur qui après a permis de faire des choses suspectes sur un environnement de dev. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, ça me renforce dans l'idée que l'environnement de dev, tant qu'on peut, parce que je sais que c'est pas toujours possible, mais tant qu'on peut le considérer comme de la prod en termes de monitoring, d'analyse des logs ou des choses comme ça, c'est quand même pas du luxe, parce que du coup ça permet de découvrir ça. Si on revient quelques podcasts en arrière, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait cette histoire à peu près du même type qui s'était passée chez Stack Overflow, où il y avait un gars qui avait su exploiter une faille dans un des environnements de dev et qui en tryhardant avait réussi à remonter à pas mal de choses. Et Stack Overflow l'avait détecté aussi parce qu'ils monitorent leur environnement de dev de la même façon que leur prod, et que du coup ils avaient vu les patterns suspects. Donc voilà, c'est pour ces deux sujets que je souhaitais aborder cette news avec vous. Et donc du coup, Damir, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et je ne doute pas que tu utilises déjà un password manager.
Ah oui, moi je... Ça fait longtemps que je disais un password manager. C'est vrai que c'était pas facile de s'y mettre, mais une fois qu'on s'y met, c'est tellement un confort qu'on regrette jamais. Ne plus retenir ses mots de passe, d'avoir moins de problèmes à changer un mot de passe ou les fameuses règles à la con, là. On peut mettre n'importe quoi et au moins on n'a plus ce souci-là. Donc c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Et autrement, de ce que je pense de cette histoire, c'est intéressant de voir en fait nouveau... une énième, on va dire, affaire de leak qui passe, comme tu dis, par des environnements de non-production. Et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus avec les supply chain attacks et tout ce qui s'ensuit. On essaye vraiment d'attaquer à ces niveaux-là parce que souvent, c'est un peu le parent pauvre. Et parce qu'aussi, on va pas non plus dire de bêtises. Avec le DevOps, c'est quand même des environnements aujourd'hui qui bougent beaucoup, qui sont des fois éphémères, qui se multiplient, qui se démultiplient. Donc c'est beaucoup plus simple de faire passer quelque chose à travers les merveilles du filet où la prod, globalement, il y a, en exagérant, un flux unique, alors que du coup, staging, il y a beaucoup de flux. Et je pense que c'est compliqué de monitorer aujourd'hui, tu disais de faire au maximum comme la prod. Justement, je suis pas sûr qu'on puisse s'adapter et scale ce qu'on fait en production sur le staging. Et je me demande dans quelle mesure il serait intéressant d'essayer de réfléchir à d'autres stratégies, peut-être avec d'autres systèmes aussi, de faire plus attention, comme tu sais, aux accès développeurs et ces choses-là, de mettre plus de sécurité dessus, de forcer déjà la double authentification, de faire potentiellement des vérifications de sécurité sur les logs, de type check les métadatas, si la personne elle se connecte d'un endroit et d'un coup d'un autre avec un navigateur, un OS totalement différent et à 300 km de là, peut avoir des questions. Donc je pense qu'il y a toutes ces choses-là à mettre en place, et aussi bien sûr essayer au maximum de faire vérifier les dépendances, même si ça reste quand même un vœu pieux, parce qu'on n'arrivera jamais aujourd'hui à auditer en permanence toutes les dépendances d'un programme. Et pour moi, un des trucs qui est vachement important, ça va être de sensibiliser là-dessus les développeurs à faire attention, à éviter de mettre trop de permissions et à au maximum utiliser des tokens et des accès qui soient temporaires, et d'éviter de mettre des choses entre guillemets, laisser des tokens traîner, parce qu'on sait tous que dans un grand truc, aujourd'hui, on connaît beaucoup d'API et choses comme ça, c'est très simple d'avoir un token qui traîne avec un peu trop de permissions. Donc vraiment essayer d'inculquer ça et donner les outils aussi, nous, les équipes DevOps, CRE et autres, donner les outils pour qu'ils puissent gérer cette sécurité et générer des tokens, on va dire, plus facilement. C'est deux pistes qui me paraissent très intéressantes. Et toi, Christophe, je sais pas ce que t'en penses de tout ça.
Vous avez déjà beaucoup parlé, alors je ne sais plus trop quoi dire. Bon, la première chose, je suis assez surpris qu'il y ait des clients libres pour LastPass, parce que pour moi, ça reste une solution propriétaire. Bon, le cœur du soft, il est propriétaire, et du coup, je vous renvoie à tout un tas de logiciels libres. Je vous mets un lien dans la description pour avoir des alternatives que vous pouvez aussi auto-héberger. Si vous êtes une très grosse boîte, vous pouvez héberger vous-même votre solution, ce qui évite justement d'avoir une solution qui centralise tout. Et je vous renvoie aussi à l'épisode de podcast qu'on a fait, qui est Radio DevOps numéro 24 sur gérer ses secrets avec l'infra as code, puisqu'on avait une petite partie où on parlait de ce genre de logiciel. Mais à part ça, vous avez tout dit, donc je vois pas trop de choses à rajouter que ce que vous avez dit en fait. Et donc, je vous propose de passer à la section des outils, et on va commencer par un outil d'Erwan.
Ouais, alors c'est vraiment, encore une fois, c'est un petit truc sans prétention, mais que moi j'ai trouvé assez pratique. C'est un outil qui s'appelle Direnv, donc on mettra le lien associé au podcast. Et en fait, c'est un petit outil qui va vous permettre de sourcer un ensemble de variables quand vous allez aller dans un répertoire donné. Donc le cas d'usage est lequel? Dans tous vos repos, souvent vous avez besoin de tout un tas de variables d'environnement pour faire des actions ou quoi que ce soit. Du coup, vous avez souvent un fichier avec tous les exports qui va bien que vous sourcez quand vous allez dans ce repo. Et ben en fait, Direnv, il va le sourcer pour vous. Et donc du coup, dès que vous allez dans ce répertoire, et ben l'ensemble, en fait, en globalement, il exécute il fait un source du point inversé que vous allez avoir dans le répertoire, et il va vous dire l'ensemble des variables d'environnement qu'il a sourcé en faisant ça. Et le truc intéressant, c'est que dès que vous allez quitter ce répertoire, Direnv va, entre guillemets, unset les variables qu'il a sourcées spécialement dans son répertoire. Donc, quand vous passez votre temps à changer de répertoire, etc., et que vous devez réadapter votre environnement par rapport donc à vos répertoires, c'est quand même assez pratique. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça intéressant à partager, parce qu'il n'y a pas très longtemps, ça m'est devenu pas indispensable, mais vraiment utile.
Moi, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai encore jamais testé. Je crois que Damir va nous en parler un petit peu.
Oui, non, c'est très pratique. Il y a deux choses que je rajoute dessus, parce que c'est des points pour moi qui sont importants. Premier point, c'est qu'il faut bien comprendre que ça ne s'exécute pas sans votre accord. C'est-à-dire, si jamais vous n'avez pas relu le fichier, ou si quelqu'un fait des modifs dedans, il va pas s'exécuter tout seul, parce qu'au début, je pensais ça, et je me disais, c'est la foire à la saucisse, quelqu'un peut mettre un RMRF, nos préserve-routes sans problème. Non, il va vous dire, attention, le fichier a pas été appliqué, parce qu'il a eu des modifications, vérifiez-le avant. Et deuxième chose que je trouve vraiment cool pour faire un peu un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la sécurité, c'est que au-delà de charger les variables, il les unset aussi. Ce qui veut dire que quand vous cherchez, vous avez, imaginons, un Direnv qui va chercher des variables dans Vault, etc. Si jamais vous changez de dossier, vous êtes dans un autre dossier avec un autre contexte de travail, vos variables vont être unset totalement. Parce que autant sourcer nos variables, on pense à le faire, autant les unset, voilà, s'il n'y a pas Direnv, on y pense moins. Donc ça va très vite aussi de faire fuiter des choses comme ça. Donc c'est toujours un petit bonus assez sympathique.
C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand il en a parlé, Erwan. Je me suis dit, je vais poser la question. Puis en fait, bon, il l'a dit. Parce qu'en effet, ça me paraissait essentiel de enlever les variables qu'on a créées justement à ce niveau-là. Moi, je vais vous parler d'un petit outil qui est Nala. Je vais faire hyper simple parce qu'en fait, il y a Adrien Linux-Trick qui a fait une vidéo dessus, donc je vous renvoie plutôt sur sa vidéo. Mais Nala, en fait, c'est un wrapper, donc c'est une interface un peu plus conviviale que APT. Les avantages, d'après ce que j'ai vu, parce que je l'ai pas encore testé, c'est que ça va vous permettre d'installer des logiciels plus rapidement parce qu'il y a une gestion du parallélisme qu'il n'y a pas dans APT, et surtout de manière plus ergonomique, puisque la présentation, c'est pas une grande liste qui va dérouler, mais il y a un tableau unique sur lequel il va y avoir plusieurs informations en couleur, et donc vous allez voir des petites choses intéressantes. Donc c'est un wrapper qui est assez intéressant si vous êtes sur un système Debian et Ubuntu. Malheureusement, si vous n'êtes pas sur ces superbes distributions, vous ne pourrez pas profiter de Nala.
Est-ce que c'est aussi un wrapper pour le APT cache Madison? Parce que moi, ça me rend fou. Déjà, je me souviens jamais de la commande. Mais en plus, je trouve que l'output, il est nul. Est-ce que tu sais si ça gère ce truc-là?
Je ne connais même pas APT cache Madison. Par contre, je sais que quand tu utilises Nala, tu n'as plus besoin de faire d'APT update parce qu'il le fait pour toi. Donc, j'imagine qu'il y a plein de petites choses qu'il va faire pour toi. Mais je veux bien que tu rentres un peu dans le détail du cache Madison parce que là, j'avoue que je ne connais pas. Donc, ça veut dire que je n'ai jamais utilisé ce truc-là.
C'est juste pour avoir les versions, les versions disponibles dans les repos que tu as configurées dans ta conf APT pour un package donné. Et du coup, ça te permet d'avoir cette liste-là. Mais je sais pas ce qu'en pense Damir, mais moi je trouve que l'output il faut évoluer quoi.
Oui, non, je l'ai utilisé il y a pas longtemps. C'est pas quelque chose de, on va dire, de sympa et de friendly, du coup tu te retrouves à le découper, etc. Mais non, c'est clair qu'un truc un peu plus ergonomique et avec un meilleur output pourrait être cool, voire même avec des filtres dynamiques, mais j'en demande beaucoup.
Justement, je l'ai pas dit, mais il y a une notion de filtre de recherche, et quand tu vas chercher un paquet par exemple, il va te dire quelles sont les versions qui sont disponibles dans tes source listes. Et il va aussi t'afficher celles qui sont installées ou pas sur ton système. Il y a une gestion de miroir, puisque quand tu installes Nala et que tu le configures, il va aller tester les miroirs et il va te proposer des miroirs qui sont les plus rapides pour toi. Donc, il y a plein de choses qui font que ça rend APT plus sympa et plus convivial et plus rapide pour une station de travail, voire même pour des serveurs, pourquoi pas. Et je crois que, Damir, tu viens de rajouter un outil, là.
Oui, que j'avais oublié. Et c'est vrai que c'est un outil qui est pas nouveau, mais que j'ai redécouvert. On n'en parle pas souvent, parce que maintenant, on est habitué à avoir ça chez la plupart des fournisseurs cloud, mais c'est pas toujours le cas, et parfois, on a des besoins un peu spécifiques. Et il existe toujours des distributions Kubernetes qui vous permettent d'installer Kube et de gérer Kube de manière un peu plus sympa que le faire avec KubeADM. Et parmi ces distributions, j'en connaissais deux, trois. Il y avait notamment RKE qui était fourni par nos amis de chez Rancher. Et j'avais un peu mis RKE de côté dans ma tête. J'en ai entendu parler il y a un petit peu longtemps parce que je m'en souvenais comme une solution sympa dans l'idée, parce que c'était très facile à déployer. En fait, vous installez Docker, vous lanciez un conteneur Docker et il s'installait dans le Docker. C'est pas ultra, on va dire, c'est pas forcément une approche conventionnelle qui plaira à tout le monde, mais de côté facilité, c'était pas mal. Mais avec, on va dire, pas la chute de Docker, je serais un peu méchant de dire ça, mais la perte d'intérêt de Docker le passage sur des couches plus basses au niveau des runtime, ben c'est plus un produit qui m'intéressait. Et en fait, j'avais totalement loupé qu'ils avaient fait RKE2. Pour moi, le Rancher avait lancé K3S, qui est très connu, et c'était un peu leur main distribution. Maintenant, ils ont aussi lancé RKE2. Qui est une distribution Kubernetes toujours basée sur la simplicité par défaut. C'est-à-dire que quand vous l'installez par défaut, il essaie de faire un truc déjà assez propre, notamment en termes de sécurité. De ce que j'ai compris, c'est une version qui a été faite notamment aussi pour des produits gouvernementaux, donc gouvernement américain. Et pour le coup, j'ai commencé à le tester, ça marche plutôt bien, c'est facile de le prendre en main, et la configuration par défaut a l'air plutôt propre, donc si jamais vous cherchez une distribution cube, bah, je peux que vous recommander de faire un petit tour sur RKE2, qui peut être un peu plus complet que K3S, qui parfois a certaines limitations au niveau de ce qu'il embarque.
Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un sujet sur le forum sur les différentes distributions Cube, leurs avantages, leurs inconvénients, parce que ça, il y en a quand même pas mal, mine de rien.
Oui, on reste pas mal.
Moi, j'avoue que j'ai fait que du Cube Manager, donc ça me semble un peu loin.
Mais si tu prends une solution simple aussi, c'est moins marrant.
Oui, mais c'est... Tu parlais tout à l'heure de service manager, et Cube Manager, c'est un des services managés. En tout cas, merci pour cette distribution. Eh bien, écoute, cher auditeur, nous sommes arrivés vers la clôture de ce podcast. Je te rappelle que s'il t'a plu, en tout cas, tu peux t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube pour voir nos petites bouilles parce qu'il est rediffusé sur YouTube. Tu auras ta dose de veille mensuelle comme ça et tu pourras retrouver les podcasteurs ou podcasteuses, qui sait, peut-être un jour sur ces médias-là. Je vais laisser la parole à mes chers co-animateurs qui vont avoir le mot de la fin et on va commencer par Erwan.
Ça sera gourde, parce qu'il fait chaud.
Il fait encore très chaud, en effet. Et Damir, c'est toi qui as le mot de la fin de la fin.
Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à découvrir, à tester des choses et à nous les partager à nous aussi pour qu'on puisse voir un peu ce que vous trouvez.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.